Moi, je pense que, d'après ce qu'on a dit ce matin, je conçois donc la sous-optimalité, pourrait-on dire, hein, je conçois dans l'optimalité ou dans... Alors là, on est en plein dans un rendement optimal, si je puis dire, de la nature. On voit bien ce qu'il suppose. Il suppose politiquement l'exclusion des rencontres, il suppose l'exclusion de l'hétérogène, il suppose l'exclusion des histoires au sein même de la nature. Et je voudrais insister sur un point qui me semble capital, c'est qu'on voit bien que ce qui a changé dans notre conception de la nature, c'est ça. On est en train de se rendre compte que les êtres, étant tous des processus relationnels, n'ont aucune suffisance en eux-mêmes. Et que le modèle même de la suffisance, qui a été celui de l'Occident, cette idée qu'il peut y avoir un être complet en lui-même, équilibré, qui a ses ressources en lui-même, cette idée qu'il pourrait y avoir dans la nature des êtres qui se suffisent à eux-mêmes, eh bien cette idée-là, c'est une idée qui est complètement abandonnée. C'est une idée qui n'existe plus. Plus personne ne pourrait croire que aux modèles qui ont dominé l'histoire de l'Occident et qui ont continué à dominer hein, notre pensée, c'est-à-dire cette idée d'une autoproduction, d'une autonomie des êtres, d'une autarcie. Hein, j'emploie tous les mots qui ont été utilisés dans l'histoire de l'Occident, ou même en biologie, c'était Varela, d'une autopoïèse, hein, comme si le vivant suffisait à s'édifier lui-même. On est en train donc d'en finir avec le modèle de la suffisance des êtres. Pas un être ne se suffit. Et pour aller vers un modèle qui est de dire les êtres sont insuffisants en eux-mêmes, ils sont précaires. La précarité, c'est le fait de consister dans des relations et le fait hein, de pouvoir perdre ces relations, c'est ça la précarité. Cette précarité, elle se fonde sur la certitude que les êtres sont engagés dans des processus hétérogènes, qui sont engagés dans des processus complexes, toujours hétérogènes. Je dirais donc très simplement, être précaire, c'est être composé. Et être composé, c'est être composé d'un tissu de relations. Une nature épuisée, c'est une nature qui perd son tissu de relations. L'atrophie des relations, la monotonie des relations, c'est précisément ça le désastre politique de la nature aujourd'hui. Anna Tsink, je retire des éléments qui m'ont paru intéressants que je développe pour moi-même, si tout ça n'est pas nécessairement dans Anna Tsink. C'est donc un auteur qui va développer cette idée, c'est pour ça qu'elle a travaillé aussi avec Lynn Margulis, qui va développer cette idée que la précarité ontologique, au fond, manifeste le poids de l'interdépendance, du symbiotique, de la consistance interspécifique. Même pour une forêt, raconter l'histoire d'une forêt, c'est raconter l'histoire des espèces qui sont tissées les unes avec les autres. Aucune forêt, dira très bien Anna Tsink, ne peut se baser sur l'histoire d'une seule espèce. Elle dit, l'espèce ne constitue pas la bonne unité de base pour raconter la vie dont regorgent les forêts. Cette interdépendance des êtres, eh bien, c'est aussi celle qui va être découverte et ce thème de la précarité qui va être découvert en 1985 par un auteur qui a travaillé avec Gilles Deleuze et qui s'appelait Félix Guattari, dans un texte qui s'appelait Référence et consistance. Et Félix Guattari, qui est un auteur vraiment assez génial, qui a apporté beaucoup à la philosophie deleuzienne, qui est un très grand inventeur et qui travaillait à la clinique psychiatrique de la Borde, hein, qui était. Eh bien, Félix Guattari faisait des séminaires. Dans un de ses séminaires, il a lui aussi compris l'importance d'un changement de paradigme dans la pensée occidentale. C'était pas le seul, parce qu'il y avait déjà eu un sociologue belge, Eugène Duprel, qui avait inventé un concept tout à fait nouveau, qui va être utilisé ensuite, qui était le concept de consistance. Et qui disait dans ses essais pluralistes que consister, c'est toujours faire tenir ensemble l'hétérogène. C'était une très belle idée de la consistance. Les êtres consistent quand ils savent faire durer et maintenir ensemble l'hétérogénéité qui les constitue. Ils ne consistent plus quand ils perdent cette hétérogénéité. Ça rejoint beaucoup la résilience, hein, la plasticité dont il a été question ce matin. Il disait donc que la consistance est un processus de conjonction actif. Et que ce qui caractérise au fond les êtres, c'est ce processus de conjonction actif. Et il mettait en garde. Il disait, en 1985, il disait, écoutez, les vieilles catégories, ça ne marche plus. On ne peut plus parler d'être, on ne peut plus parler de substance. On ne peut plus parler d'être comme quelque chose d'uni, de manière homogène en lui-même. On doit parler, et j'aime bien la formule, de l'être comme modulation de consistance. Tous les êtres sont des modulations de consistance. Ça rejoindra un peu ce que fera Simondon dans l'individu et sa jeunesse physico-biologique quand il montrera que tous les êtres sont des relations d'hétérogénéité qui consistent. Le cristal, le vivant, etc. Alors je lis un peu ce texte de Guattari. Et il dit, bon, il a une écriture un peu dense, pas toujours facile à lire, mais cette écriture, je vous la livre telle qu'elle était dans le séminaire, un peu en vrac comme ça. Et il disait, la consistance exprime la fragilité, la précarité des processus conjonctifs. Étonnant donc, en même temps que Natsing, bien avant Natsing, il exprime leur densité relative, leur caractère transitionnel. Une telle association modifie le concept d'existence. Nous renonçons aux oppositions massives, binaires, du type essence, existence, être, néant. Tout ça, ça n'intéresse plus. Il n'y a pas d'opposition binaire dans la nature. Dans la nature, il y a des processus de conjonction, des processus d'association, des processus de symbiose, mais absolument pas d'être d'un côté ou de néant de l'autre côté. Cette théorie de la modulation de l'être comme modulation de consistance, je crois, fait advenir de nouvelles questions pour nous. Et la première de ces questions, c'est comment consistent les êtres? Comment est-ce qu'ils consistent? Et là, avec l'aide de la biologie, de la physique, évidemment, de toutes les sciences, hein, qu'est-ce que c'est que consister pour un être? Quel est le tissu de relation dans lequel il consiste? Et on en a parlé ce matin. À partir de quand un être humain n'est plus un être humain? À partir de quelle relation abandonnée devient-il quelque chose d'autre qu'un être humain, hein? Et c'est des questions qui sont posées exactement dans les séries, dans les dystopies, les uchronies aussi. Donc, la question, c'est en quoi consiste un être? Et puis, la question qui se pose aujourd'hui, et on en a parlé ce matin avec l'Anthropocène, c'est quelle est la consistance homme-nature? Comment l'homme peut consister avec le système Terre? À partir de quelles relations et de quelles limites cet homme ne consiste-t-il plus dans le système Terre? À partir de quel moment l'épuisement des relations engage précisément quelque chose qui serait de l'ordre d'une déconsistance de l'humain, d'une perte radicale de consistance de l'humain, et donc un danger mortel pour lui. Mais cette question ne se pose pas uniquement au point de vue système-nature, mais au point de vue politique, au point de vue culturel aussi. Une autre conception donc de la nature, me semble-t-il, apparaît aujourd'hui, c'est celle d'une précarité généralisée, c'est celle du problème de la consistance des relations. Voilà, je vais conclure là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est ce sentiment que la précarité atteint. Elle a changé de nature, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas fragilité, elle n'est pas faiblesse. La précarité est devenue ontologique, elle touche les êtres en eux-mêmes. Elle n'évoque pas un sentiment de misère humaine ou de faiblesse, non, elle affecte les êtres en leur sein même. Elle n'est pas simplement référée à notre situation économique et sociale, elle est beaucoup plus importante que cela. Elle nomme la situation ontologique des êtres dans toute la nature. Au fond, je pense que ce qui est en train d'animer toutes les disciplines et un grand nombre de disciplines aujourd'hui, c'est l'exigence de décrire ces phénomènes de consistance et de déconsistance. Et pour la philosophie, c'est de dire, précisément comme le faisait Deleuze, qu'est-ce que c'est que prendre consistance? Qu'est-ce que c'est que de relancer des possibilités de consistance, hein? Qu'est-ce que c'est que de créer des plans de consistance? Voilà. Donc c'est ce point-là que je voulais aborder avec vous. J'en reste là.
Par la force philosophique.
Pas très forte, hein. Un peu résiliente et précaire, elle aussi.
Peut-être pour dire juste un petit point, parce que super, bravo quoi. Ça résonne dans plein d'endroits, donc peut-être pas tout mettre dans le bon ordre. Ouais. Mais une discussion qu'on a entamée hier en buvant une bière, là, mais qui me revient maintenant, sur l'hétérogénéité intrinsèque, le fait que donc nous, on se voit comme des êtres monoclonaux, on a une cellule et puis on s'est divisé, on a tous les mêmes cellules qui s'est divisé, voilà, on est un être très homogène intérieurement, et on est en train de se rendre compte que c'est beaucoup moins vrai, qu'en fait, il y a beaucoup d'êtres qui sont des chimères, et notamment les mères. Hein. Les mères qui mettent un enfant au monde gardent des cellules de l'enfant apparemment très longtemps dans leur corps. Hein. Et du coup, on est hétérogène, enfin en tout cas les femmes sont plus hétérogènes, enfin, les mères sont plus hétérogènes que les pères, notamment. Et donc il y a cette hétérogénéité qui évolue en plus dans le temps. C'est-à-dire qu'on est donc sur la consistance, ben, c'est un point très particulier, oui. Hein, mais qui fait notre consistance, c'est-à-dire que même dans notre ontologie, cette hétérogénéité, on la vit nous-mêmes. Hein, il y a un exemple encore plus frappant, c'est une histoire, c'est en 1953, une certaine Madame K, qui venait faire un test sanguin. Elle faisait un test sanguin, non, elle n'a pas commencé par le test sanguin, en fait elle a eu des enfants, et les quatre enfants étaient génétiquement différents d'elle. Donc on ne peut pas dire que c'était le père, c'était d'elle, hein, de la mère, et elle a bien mis au monde ses enfants. Donc il y a quelque chose qui ne collait pas. Et en fait, ils se sont rendus compte en faisant des tests sanguins que c'était une chimère, en fait, que c'était pendant sa gestation, en fait, c'était une jumelle. Il y avait eu des mélanges de cellules dans in utero. Ouais. Et apparemment, c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Les jumeaux partagent, en fait, sont souvent des chimères, en fait, apparemment. C'est un petit point, mais c'est juste pour...
Après, ça va dans le sens... Je pense que l'immunologie aujourd'hui est une discipline très en pointe sur justement le soi, le non-soi, et mais surtout le non-soi intégré au soi, parce que c'est beaucoup de travaux d'immunologie qui sont très intéressants sur le fait. On croyait que l'organisme il s'est repéré, il y a des choses étrangères qu'il accepte, il y a des choses étrangères qu'il n'accepte pas, il y a des éléments de lui-même qu'il considère comme étrangers, etc. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on supposait qu'une sorte de clôture organique qui refuserait l'extériorité, c'est pas ça du tout. Donc les sciences sont en train vraiment de bouger sur cette conception de l'hétérogénéité du vivant et aussi de la processualité du vivant. Mais c'est pas seulement les sciences biologiques, hein, je crois que c'est l'ensemble des disciplines. En anthropologie aussi, il y a vraiment une revalorisation, par exemple, en anthropologie, on pouvait parler de Virus et Castro, mais un retour, par exemple, de la notion des relations entre les êtres au sein même des cosmologies amérindiennes, etc. La prise en compte, non pas d'une perception qui serait simplement une perception subjective étendue de la nature, mais au contraire, des perceptions extrêmement complexes dans lesquelles les types de relations entre les êtres sont modifiés selon les sociétés auxquelles on appartient. Donc il y a un schéma presque relationnel de l'anthropologique aussi qui est en train de s'imposer contre des visions plus archaïques et plus... Voilà, c'est cet aspect-là que... Oui.
Un autre exemple de cette variabilité a été expliqué par Albert Jacquard dans une émission de télévision, c'est que c'est pas le spermatozoïde le plus fort et le plus rapide qui gagne, entre guillemets, c'est l'ovule qui choisit parmi tous les spermatozoïdes qui sont arrivés et qui attendent de pénétrer, il choisit, l'ovule choisit celui qui est génétiquement le plus différent. Enfin, dont la génétique est la moins proche de celle de l'ovule.
Oui.
J'avais, on parlait des différentes sciences, etc. Donc j'entends très bien la côté biologie. Enfin, j'imagine que c'est ça qui doit d'abord, et donc moi je suis.
Oui, c'est ça.
En fait, je me demandais ce que tu entendais exactement par nature. Je ne sais pas, tu l'as pas peut-être ou elle est définie ce matin, je ne sais pas, mais tu, nature, c'est un mot clé dans ce que tu dis. Et pourtant, bon, je me suis posé la question de ce que tu entendais exactement par là. Parce que, alors, comme ça, à chaud, pour un physicien, si tu veux, bon, on va dire, tu fais de la monoculture, tu fais. Une bombe atomique, etc. Et cette idée que la nature est épuisée ou les ruines de la nature, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que du coup, c'est nature pour vous, dans ce qui compte pour l'homme, quoi. C'est vraiment en tant que relation pour l'homme, etc. Parce qu'un physicien, était méchant, qui n'est peut-être pas dans cette dynamique de relationnisme, etc., va te dire, bah oui, ok, en gros, tu as une vision un peu. Niveau et donc tu arrives à détruire un certain nombre de processus et à changer complètement tous les processus dont l'énergie, si tu veux, qui sont fragiles par rapport à une certaine intervention, mais en gros les électrons et les noyaux, ils sont complètement différents trucs et la nature, elle est toujours active et vivante. Elle n'est pas touchée par ça et donc cette fragilité de la nature, on entend très bien, je pense, quand tu considères nature au sens écologique, quoi, enfin, au sens environnement, ben, mais au sens plus peut-être physique ou philosophique, du coup, ben, il me semble qu'il y a un truc à préciser au niveau nature, là, pour que ça soit un peu plus clair, parce que sinon, je finis juste, l'électron pourrait dire, est-ce que c'est un être aussi fragile de par ses relations à ce moment-là, il faut prendre l'attitude que j'aime bien, d'ailleurs, sociologie des sciences, de l'électron, en gros, pour être là, il faut qu'il soit dans les labos, quoi. Donc, il est aussi fragile parce qu'il est coupé de ses relations-là, l'électron, les consignes. Voilà. Est-ce que c'est ça que tu entends aussi ou pas,
mais, merci de cette question, parce que c'est vrai que c'est une question importante et je n'ai pas pu du tout développer, mais il est vrai que je ne me situe pas du tout dans le cadre du dualisme moderne qui avait opposé, donc j'ai éliminé ce cadre du dualisme qui nous a imposé de réduire la nature à un niveau physique. Et puis, de l'autre côté, un niveau humain, pourrait-on dire. Je crois qu'on en a fini avec ce modèle dual, avec la nature, effectivement, elle a des échelles très différentes, mais qu'à l'échelle où on se situe, pour parler de précarité, c'est celle vraiment des relations vitales qui vont constituer la nature. Je ne parle pas, évidemment, du niveau physique et du niveau... Mais il y a certains qui n'hésiteraient pas. Il y a certains qui n'hésiteraient pas. Je pense que par exemple Bruno Latour dans la sociologie des sciences, il n'hésiterait pas. Bruno Latour avait souligné il avait lu Gabriel Tarde et il avait souligné dans Monadologie et sociologie ce passage où il disait, où Tarde disait, même les électrons ont été une sorte de conquête dans la nature par rapport à d'autres éléments physiques. Donc il y a aussi voulant montrer qu'il y avait aussi une histoire de la matière inanimée avec des relations multiples et qu'elle n'a pas toujours été ce qu'elle a été. Donc il y a d'autres qui diraient effectivement comme Isabelle Stengers que le neutrino c'est un être à la fois mental et physique qui existe sans exister, qui n'existe que dans des procédures de laboratoire et de vérification. Bon, mais là, on entre dans le problème du constructivisme et du naturalisme. C'est un autre problème. En tout cas, pour répondre directement à la question, je me situe dans une... Je pense que le concept de nature a largement changé et que le concept de nature indique aujourd'hui, dans la modernité, quelque chose qui est une réalité beaucoup plus vaste que la réalité physique, qui est une réalité biologique, vitale, une biosphère, et que ce n'est pas simplement le niveau physique. Et quand on parlait du système Terre ce matin, c'est bien ce niveau-là qui est en jeu. Je ne pense pas que ce soit le niveau de la consistance des électrons en eux-mêmes qui, effectivement, ne risque pas de disparaître.
C'est une nature dans laquelle l'homme est inscrit, quoi.
Ben oui, à laquelle il appartient, à laquelle il participe, à laquelle il est confronté par son action vitale permanente. Ce n'est pas une nature de la connaissance. C'est une nature participative dans laquelle on est inclus par toutes nos actions, nos émotions et nos perceptions. Et souvent, on pensait la nature comme une sorte d'objet de connaissance. C'est-à-dire la nature était pensée comme cette réalité à laquelle nous ne participons pas. Mais aujourd'hui, tout cela, cette conception participative de la nature domine très largement, me semble-t-il, l'ensemble des régimes de science et des disciplines nouvelles.